Aujourd'hui, nous vous proposons une escapade estivale au sanctuaire Notre-Dame d'Eas. Nous prenons de la hauteur dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. C'est parti.
Je suis le frère Pierre Barry, des prébentérés de la Loubert.
Frère Pierre-Marie, nous sommes aujourd'hui avec vous au sanctuaire Notre-Dame d'Eas. Nous nous trouvons là précisément devant un gîte hein, dont vous avez un petit peu la garde en tant que prémontré. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où est-ce que nous sommes exactement ?
Bien, nous sommes au pied de la chapelle de Notre-Dame d'Eas. Dans ce lieu, nous avons une maison depuis 1987. Alors que nous étions à Pau, nous avons acheté dans cette maison pour en faire un centre de colonie de vacances.
Alors, peut-être une petite description géographique s'impose. Le sanctuaire Notre-Dame-des-Eas, on est à peu près à 1500 mètres d'altitude, c'est ça ?
1500 mètres d'altitude, voilà. Pour y accéder de Lourdes, il faut passer par Argelès, Luz, Gèdres. Et au-dessus de Gèdres, au lieu de continuer sur Gavarnie, tourner à gauche dans la direction du cirque de Troubouze, le lac des Gloriettes, et donc Notre-Dame de Eas, bien entendu, qui est le cœur même de ce cirque de Troubouze.
Qui est juste au-dessus de nous, là, en fait. Oui. Il faut grimper un peu, mais on a...
Il faut grimper, oui, parce qu'il est à 2200 mètres, ouais. Donc en une heure et demie, deux heures, on est au cirque de Troubouze.
Alors vous, frère prémontré, vous avez donc une présence ici depuis plusieurs dizaines d'années. Quel est l'accueil que vous y proposez ?
Nous proposons cet accueil à des familles, à des personnes individuelles. Alors c'est ouvert du mois d'avril à fin novembre. Le reste du temps, la maison est fermée parce que la route est fermée, donc il n'y a pas d'accès, sauf à pied. Mais encore, le site est fermé. Voilà. Donc nous proposons ceci à des familles, à des groupes, et nous faisons nous-mêmes ici deux semaines, en juillet et au mois d'août, deux semaines de ce que nous appelons montagne et prière. Donc nous avons la prière ensemble, la vie commune ensemble, les sorties ensemble, les repas également pris en commun. Et au cours de cette semaine-là, nous avons donc des temps de prière, l'aude, l'eucharistie, les vêpres. Et aussi, dans cette semaine, nous avons une journée spéciale que nous appelons journée de la réconciliation, au cours de laquelle nous préparons le matin et l'après-midi cette réconciliation de l'après-midi, cette veillée de la réconciliation, par des textes de l'Ancien Testament et de l'Évangile. Voilà.
C'est un peu une retraite spirituelle, ce n'est pas vraiment des vacances. Hein.
Si, c'est des vacances parce que c'est finalement la vie commune qui fait que l'ambiance et la fraternité qui se déploie au cours de la semaine, qui fait que ce n'est pas du tout, il n'y a pas une rigidité de retraite spirituelle comme on peut en trouver dans d'autres lieux et dans d'autres spiritualités. La spiritualité des prémontrés, c'est quand même la spiritualité de la communion et de la fraternité. Donc c'est ce que nous cherchons et nous proposons pour les personnes qui viennent durant une semaine ici.
Alors, ça peut être des familles avec des enfants. D'ailleurs, aujourd'hui, où nous sommes présents avec vous, il y a deux jeunes enfants. Oui. Comment les enfants s'accordent avec ce rythme de vie de prière ?
Bon, les enfants ont leur spécificité de rencontre pendant la journée. Par exemple, le jour où on fait la réconciliation, il y a quelqu'un qui les prend en charge. Donc ils ont leur rythme et également dans cet esprit-là, mais à leur mesure et à leur niveau. Les enfants sont au cœur même de la vie commune là, à ce moment-là, et on tient compte de leur par exemple pour les randonnées, nous tenons compte de la difficulté en pensant aux enfants.
Bon, et puis il faut dire que le lieu est quand même assez extraordinaire. C'est un lieu où on se ressource, petits et grands. On entend, alors certainement les auditeurs entendent l'eau qui, voilà, du ruisseau et des cascades là derrière nous, qui ruisselle. C'est un lieu paisible et ça, tout le monde y est réceptif.
C'est un lieu paisible, mais c'est un lieu qui n'est pas silencieux. Il y a le silence de l'eau qui coule, le silence du vent dans les arbres, et le silence de la pluie. Et c'est cette atmosphère, cela crée une atmosphère extraordinaire. Et lorsque le soleil apparaît aujourd'hui après le brouillard, ce matin il y avait le brouillard, à 9h, le soleil est apparu. Mmh. Et en bas, il y a la mer de nuages, et nous sommes ici. On a comparé Eaz à une oasis. Mmh. Une oasis de paix, de silence, de spiritualité. Il se passe, quand on vient ici, il se passe toujours quelque chose de spirituel qui est propre à chacun, mais c'est un cadre qui, je crois, permet l'ouverture à la contemplation, à la méditation, au silence intérieur et à une vie spirituelle renouvelée. Je crois que ce site-ci est un site vraiment unique dans les Pyrénées.
C'est pour ça que vous, frère Prémontré, vous vous êtes installé ici, enfin que vous avez décidé d'investir dans ce lieu. C'est ça, oui, qui vous a touché ici?
C'est ça. Nous connaissions Eaz et nous connaissions de réputation. Mais quand on vit ici quelques jours, on retrouve, je crois, une atmosphère de paix, de silence et de coupure avec les bruits du monde. Oui. Quand on arrive au croisement des Gloriettes, je crois, moi personnellement, j'oublie tout ce qui se passe dans la vallée. C'est donc un lieu où on peut réaliser une coupure personnelle avec la vie de tous les jours et entrer dans une atmosphère de recueillement, de silence, de paix, où on peut lire, on peut se promener, on peut avoir les promenades les plus intéressantes et aussi les plus simples. Il suffit de faire le tour, par exemple, de le tour de la maison, ici, le tour de la chapelle, pour voir que, bien, on se promène.
Alors, est-ce qu'on peut se promener dans le gîte et faire la visite avec vous?
Voilà, bien sûr.
Allez, on y va. Hop. Alors, tout ça, c'est à vous, là, tout le bâtiment. Hein.
Oui, tout ceci. Lorsque nous avons acheté, il n'y avait que ces deux corps de bâtiment, et nous avons eu la possibilité d'une extension.
Donc aujourd'hui, vous pouvez accueillir combien de personnes?
14 personnes. 14 personnes.
D'accord. Voilà.
Voilà. Ici, c'est la salle de séjour, où nous prenons les repas, où nous faisons les échanges et les discussions, le soir en veillée. Également, ce qui est très important ici en montagne, c'est que nous avons une cheminée avec un insert qui est capable de réchauffer toute la maison ici.
Et indispensable en montagne.
Indispensable, oui.
Alors, qui fait le bois?
Nous achetons le bois parce que il y a quelques années, nous avions essimé quelques arbres et donc on avait fait du bois, mais enfin, c'est pas nous qui les faisons.
On ne peut pas être partout. Hein. Alors, je vois qu'il y a des enfants, il y a du monde. Est-ce qu'on peut interroger les vacanciers qui sont là ces temps-ci?
Il y a Lisa et Lynn.
Lisa et Lynn. Alors, Lisa, est-ce que tu peux nous dire ce que tu aimes dans ce lieu à Eaz?
Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut lire un peu souvent, on se promène beaucoup et on est surtout ensemble. C'est ça qui est bien.
Et toi, Lynn?
Moi, je dors bien et je passe une très bonne semaine. Moi aussi, j'adore marcher, aussi les devoirs.
Ah bah bravo, bah oui, on fait les devoirs de vacances, au moins on est tranquille pour les faire ici.
Oui, il y a le papy, les aide à faire les devoirs de vacances et c'est très intéressant pour eux et je pense aussi pour le papy de... Enfin, il faudrait demander au papy ce qu'il en pense.
Eh ben, alors, on interroge le papy maintenant. Le papy qui ne découvre pas les lieux, qui connaît bien les lieux.
Oui, je connaissais déjà Eaz depuis longtemps. Mais le lieu lui-même, depuis moins longtemps quand même. Voilà, et donc je suis très heureux d'être avec tout ce monde-là réuni et de profiter de la montagne quand il fait soleil. Et peut-être s'il continue à faire un peu beau, on pourra aller à la pêche, se baigner. Non, peut-être pas. L'eau est un peu froide.
C'est quand même un lieu unique pour emmener ses petites filles en vacances.
Ah oui, c'est un lieu extraordinaire. Voilà, on a tout sous la main.
Voilà, on a tout sous la main. Allez, parfait. Alors ici, donc c'est la salle, on peut dire communautaire,
Oui,
et à l'étage,
à
tous les
l'étage, c'est
couchages.
une. Ah non, 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 ici, c'est une mezzanine où on peut également jouer, les enfants peuvent jouer, on peut également échanger, discuter le soir. Hein. Donc c'est un lieu très, très agréable aussi parce que c'est l'endroit le plus chaud de la maison lorsqu'on allume le feu. Alors nous voici dans la cuisine. La cuisine équipée. Tout ce qu'il faut, tout ce qui est indispensable pour la cuisine. Voilà. Cuisine.
Alors quand il y a des groupes, c'est travail communautaire, c'est-à-dire que tout le monde met la main à la
Voilà.
pâte.
Chacun son tour, chacun son tour fait la cuisine pour l'ensemble. Mais les menus ont été faits à l'avance. Et donc, il suffit simplement de faire chauffer, faire de préparer ce qui a été prévu.
Parce que pour faire les courses, le ravitaillement, c'est où?
C'est où? C'est en bas.
C'est en bas forcément, c'est à Luce.
À Luce. Mais en fait, beaucoup de plats sont préparés, congelés et
D'accord.
donc servis au moment voulu.
Il faut pas oublier le pain, parce que est-ce
Voilà.
qu'on nous livre le pain ici?
Et à une époque, le pain était livré. Il y a 5 ou 6 ans, le pain était livré. Actuellement, ce n'est plus le cas. Donc, il faut aller soit à Gèdre, soit à Luce. Mais le plus simple, c'est d'aller à Luce.
Oui.
Oui, parce que c'est moins
Il
cher.
faut bien s'organiser, quoi.
Voilà, il faut bien s'organiser. Voilà.
Voilà. Alors là, on est sur la terrasse,
On est sur la terrasse,
à l'arrière du bâtiment.
l'arrière du bâtiment, du côté de la route. Du côté de la route. Et nous avons donc ici un lieu, la terrasse, c'est un lieu de vie également, pour les repas. Pour les repas, quelquefois aussi pour les célébrations d'ailleurs, pour les jeux également, et pour le repos, pour la lecture et le repos sur les chaises longues, c'est merveilleux. Merveilleux. Il y a de l'ombre des frênes, voilà. Et on entend toujours le torrent qui est là.
On entend bien, oui. Alors là, c'est la route,
La route qui
l'unique
va.
route qui descend à
Ah,
Luce et par
oui.
laquelle les touristes, il y a pas mal de
Oui,
touristes hein,
voilà.
cette
Oui.
saison, qui
Hier,
viennent.
c'était hier 14 juillet, je n'avais jamais vu autant de monde que hier. Hier, c'était extraordinaire. Il y avait des centaines de personnes, je pense.
Et donc là, vous avez du monde pour tout l'été jusqu'en septembre et c'est comme ça tous les ans.
Oui. D'abord, surtout juillet jusqu'en septembre, jusqu'à la rentrée. C'est bien plein pendant 2 mois. Et ensuite, il y a également des personnes qui viennent en week-end. En week-end. J'organise aussi, par exemple, des week-ends pour des groupes qui sont accueillis ici, par exemple, les équipes Notre-Dame, ou d'autres groupes qui viennent donc passer un week-end de spiritualité ici.
C'est quand même un lieu qui vit et qui vit tout le temps.
Qui vit tout le temps, oui, déjà j'ai des week-ends retenus en 2021, par exemple. Parce que c'est sûr que durant 2 mois, c'est vite rempli. Le temps est court. Mais il y a tous les week-ends où, pour ainsi dire, il y a des personnes qui viennent.
Vous êtes là, vous, frère Pierre-Marie, à chaque fois?
Non, 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 non. Non, non. C'est un lieu qui vit assez facilement.
D'accord.
Bien souvent, je donne les clés. Et donc, les gens sont chez eux, vous voyez.
Donc, s'ils demandent un accompagnement spirituel, vous
À ce
répondez
moment, ah
présent.
oui, à ce moment-là, oui, à ce moment-là. Autrement, je suis là pour les 2 semaines de montagne et
D'accord.
prière, voilà.
Voilà. D'accord.
Ensuite, quelques temps aussi pour moi personnellement, lorsque je viens pour du repos, par exemple.
Est-ce que la communauté des frères Prémontrés, donc qui sise à la Loubert, hein, au prieuré Notre-Dame-des-Neiges, se rencontre ici parfois? Est-ce que vous venez en communauté ici quelquefois?
Rarement, rarement,
Vous êtes tellement bien au prieuré Notre-Dame-des-Neiges.
C'est certainement la raison.
Voilà, Marie-Lise, je vous laisse vous présenter.
Bonjour, Marie-Lise, je suis la secrétaire de l'association Notre-Dame-des-Asses. Je suis également membre de la fraternité Prémontré de la communauté au prieuré Notre-Dame-des-Neiges à la Loubert. Donc voilà, ce que j'aime ici à EA, c'est le site, un écrin de verdure, un lieu de ressourcement spirituel et un lieu de ressourcement physique, cette proximité avec la nature. Une maison propice aux rencontres entre amis, rencontres en famille, rencontres avec des personnes qui désirent un temps de ressourcement. Et je pense plus particulièrement au séjour que nous avons eu l'occasion d'organiser Montagne et Prière, où les journées sont organisées de manière à avoir des temps de partage, des temps de prière, aussi des balades en montagne.
Vous y participez à chaque fois, vous les organisez, vous les co-organisez?
Nous sommes une petite équipe, nous les co-organisons pour assurer le bon déroulement, le bien-être de chacun, ce qui est important. Que chacun trouve sa place et que chacun parte d'ici transformé.
C'est-à-dire que vous veillez au bon déroulement logistique notamment, c'est ça aussi, pour que les personnes soient un petit peu dégagées de ces préoccupations matérielles?
Tout à fait. Nous organisons au niveau ce qu'on appelle l'intendance pour les repas. Et moi, quand nous recevons des familles, en particulier pour libérer les parents, je prends en charge régulièrement les enfants. Voilà, avec des temps d'échange autour de la parole de Dieu, mais aussi je les prends en balade pour les éloigner de la maison, pour préserver le silence. Et donc voilà, ma participation.
Alors si on vous demandait de convaincre une famille de venir ici à EAS, se ressourcer pendant une semaine, quels seraient vos arguments ?
Se retrouver en famille, apprendre à se reconnaître dans un cadre autre que le lieu de la maison, apprendre à se redécouvrir et à partager, libérer de tous les soucis qu'on peut avoir au quotidien, en fait. Puisqu'il y a plusieurs personnes qui sont là pour assurer la préparation des repas, pour assurer l'organisation des balades, mais aussi on invite les personnes aussi à apporter leur participation, parce que c'est important que chacun mette sa pierre pour le bon déroulement.
Oui, c'est pas une vie à l'hôtel, hein. C'est une vie où chacun participe, c'est une vie communautaire en fait. Mais l'objectif est aussi de décharger un petit peu, notamment les parents, de leurs préoccupations ou des difficultés quotidiennes, quoi, de la routine habituelle, en fait, c'est ça?
Absolument, c'est exactement ça.
Comment les enfants sont réceptifs à ça? Parce que alors, les parents, j'arrive assez bien à me l'imaginer, mais comment les enfants sont réceptifs à ces propositions que vous faites, qui sont un peu inédites, qui sortent complètement du champ des propositions qu'ils ont le reste de l'année?
Alors, les enfants... Moi, ce qui me touche profondément, c'est leur capacité d'émerveillement par le lieu. Ils ont quand même beaucoup, beaucoup d'espace pour jouer, parce que on leur laisse cette liberté-là aussi, parce qu'on n'est pas là pour faire du travail, pour travailler des textes ou autre chose. Et après, à travers cette proximité de la nature, je crois que ça les éveille à l'essentiel. Et d'autant plus qu'après, ils sont libres aussi de participer au Lode, au Vêpres, de venir à l'Eucharistie. Ils sont libres d'y venir. Voilà. Là aussi, c'est quelque chose d'essentiel pour eux. C'est cette notion de liberté et en même temps de l'attention aux autres.
Merci beaucoup. Voilà, c'est ainsi que nous quittons Marie-Lise et le frère Pierre-Marie Aricastre pour nous rendre quelques pas plus loin dans la chapelle Notre-Dame-des-Asses où nous retrouvons le père Fouchou.
Bon voilà, je suis à la retraite depuis l'âge de 78 ans. J'ai 85 ans depuis deux jours. Et voilà, Monseigneur l'évêque m'a demandé de venir à EAS. Alors je suis ici et j'accueille, voilà. J'accueille les gens du matin au soir, ceux de la vallée, mais des gens qui viennent d'un peu partout. Et les années précédentes, des Anglais surtout, des cyclistes espagnols aussi. Quelques quarts de pèlerins de Lourdes, mais très peu. Et puis les jeunes de la vallée, beaucoup de jeunes de la vallée qui sont très très enracinés ici, qui connaissent le sanctuaire et qui viennent prier assez régulièrement et beaucoup, plusieurs fois pendant l'année. Surtout lors de deux ou trois pèlerinages de la vallée, Gèdre-Gavarny, Barège, Cotteret, puis Luz, avec quelques villages environnants, et puis la région de Lourdes, de Tarbes aussi.
Vous, vous êtes ici du mois de mai jusqu'au mois de novembre ?
Attendez, du mois de mai. Monseigneur l'évêque m'a téléphoné le mois d'avril, et il m'a dit, j'aimerais que vous partiez le plus tôt possible à EAS. Ah ben écoutez, Monseigneur, je suis surpris. Je me lève de faire la sieste. Voilà. Alors, écoutez, demain, les valises seront prêtes et je monte. C'était le 20 avril, par là. Et du 20 avril jusqu'au 15 juin, 20 juin, pratiquement personne. Quelques gendarmes, quelques gardes du parc national, et voilà.
Et le reste du temps, vous vivez où dans le diocèse ?
Ah, je vis tout près de Lourdes, à Pontac. Voilà, et je rends service d'un côté et de l'autre, le Louron, Saint-Lary, la vallée de Lourdes. Voilà.
Alors, ce sanctuaire Notre-Dame-des-Has, vous le connaissez par cœur, est-ce que vous pouvez nous en raconter d'histoire ?
Mais non, je ne le connais pas par cœur parce que je suis là, mais témoin de ce qu'apportent les gens, de ce que viennent chercher les gens. Alors certains qui ne connaissent pas du tout me disent « Mais quels sont les miracles qui ont été... » Mais non, nous avons Lourdes, c'est mondial. C'est mondial, c'est unique au monde. Voilà, que l'Évangile. Et ici, EAS, c'est la volonté des gens, la piété des gens, et surtout des bergers qui, au XIIe siècle, amenaient leurs bêtes depuis Saint-Pé-de-Bigorre, ils arrivaient ici, et les bêtes d'abord, dès le début de la vallée, elles trouvaient que le pays était très beau, que l'herbe était très fraîche, et les gens priaient, les bergers tournaient vers la Mounia, tournaient vers l'Aguila, tournaient vers le Krabouta, ils ne savaient plus où prier. Et alors, à partir du XIIe siècle, ils se sont dit,
construire un lieu pour prier.
Oui, construire un lieu, et un lieu qui était d'abord tout de suite un lieu de passage des pèlerins qui allaient vers Saint-Jacques de Compostelle. Voilà. Et ce qui les a poussés aussi à construire ce lieu, c'est que les pèlerins qui partaient de Paris, de Puy, etc., arrivaient à Luz. Et ils étaient pleins de souvenirs d'endroits religieux et consacrés à Notre-Dame. Alors il y avait Rocamadour, et ils se sont dit, mais nous aussi, peut-être que Notre-Dame est bien présente. Et alors un jour, ils ont vu des colombes partir d'un endroit de l'Aguila, d'une fontaine. Une s'est posée ici et l'autre à Puylaen. Alors ils se sont dit, ça y est, c'est un signe divin. Et alors, et c'est ici qu'il faut construire la chapelle, voilà. Puis la chapelle, sans Sainte Vierge, sans rien, oui. Sans
c'est juste un endroit où ils pouvaient se recueillir et prier.
Oui, voilà, simplement. D'abord ça. Oui. Alors, cette colombe, elle a été un signe, ici. Et puis, il n'y avait pas de statue. Donc, les paysans du coin sont allés piquer une statue en Espagne, dans une vallée espagnole, là où il y avait un sanctuaire religieux. Ils ont piqué la statue. Ils se sont reposés justement près de la fontaine d'où sont partis les colombes. Les jeunes espagnols qui ont vu ça, ils sont revenus prendre la statue, ils l'ont ramenée en Espagne, et puis les gens d'ici en ont trouvé une dans un coin, ici pas très loin, et voilà, c'est Notre-Dame de Eas, Nostra Lameta de Eas. Et ça date du 13e siècle, hein, c'est très, très ancien.
Et alors, à partir de quand ce lieu est devenu lieu de pèlerinage? Vous parliez tout à l'heure des gens de la vallée qui viennent aujourd'hui régulièrement. Oui. À partir de quand ils ont commencé à venir prier ici de manière régulière?
Les gens de la vallée, les bergers d'abord venaient depuis très longtemps, de 13e, 14e, 15e siècle. Bon, et les gens de la vallée, depuis le XVIIe siècle, et puis la chapelle a été fermée pendant la Révolution, ouverte de nouveau au père de Garaison en 1948. Et là, c'est les pères de Garaison. Il y avait le père Soukaz en particulier, que les gens de la vallée ici et du département connaissaient très bien, qui est mort il n'y a pas longtemps. Alors, il venait depuis une centaine d'années, une centaine d'années régulièrement, village après village. Je vous dis, des quarts de pèlerins, de Lourdes s'arrêtent aussi parce que il y a certains caristes et patrons de quarts de Lourdes qui connaissent Eas. Et puis, il n'y a pas que Gavarni, quoi. Il y a Troumouse, une vallée qui est très belle et qui est très fréquentée aujourd'hui.
C'est une chapelle, si j'ai été bien informée, qui a été détruite, puis reconstruite. Il y a une vraie volonté de la garder, de la maintenir ici, contre vents et marées, j'allais dire, mais enfin, contre plutôt les caprices de la montagne.
Ah oui, contre vents et marées. En 1915, une terrible avalanche a tout emporté ici. La moitié de la chapelle, la maison d'à côté, où la mère et la fille ont été ensevelies. Oui, c'était en 1915. Et elle a été reconstruite en 1928, en même temps que la statue de Notre-Dame-des-Neiges à Gavarni. Hein, voilà, avec des cantiques qui ont été écrits à cette époque et qui sont chantés ici.
Oui, il y a un cantique dédié à Notre-Dame-des-Neiges.
Mais il y en a plusieurs. Il y a Vierge de la Montagne, Étoile du Berger. Il y a Notre-Bonne-Dame-des-Neiges qui a été... qui a été composé par les chanteurs de Bagnères. Hein. Puis le Nous vous saludam, qui est le Je vous salue aussi, par un chanoine du coin ici d'Esquies. Le nom m'échappe. Voilà.
Vous, quand est-ce que vous avez découvert ce lieu? Vous y passez maintenant plusieurs mois dans l'année, vous y êtes attaché. À partir de quand vous avez commencé à être attaché à ce lieu, Notre-Dame-des-Neiges?
Je suis attaché, je ne sais pas, mais j'ai découvert ce lieu en découvrant d'abord les montagnes d'ici, la Mounia, le Krabouta, le pic de la Cède, etc. Et puis Eas, quoi, parce qu'en venant et en repartant, on s'arrêtait ici. Mais c'était une chapelle comme une autre, et puis après, à la vieillesse. Oui, ça a été curieux parce que c'était il y a 5 ans, une dame d'ici qui est décédée l'an dernier, extraordinaire, et qui s'occupait du lieu et de maintenir l'esprit du lieu, quoi. Qui a téléphoné à Monseigneur l'évêque et puis il a dit, alors est-ce qu'il y aura un prêtre cette année? Comment? Mais vous vous imaginez, on n'a pas des prêtres pour des paroisses de 4 000, 5 000 habitants, vous rendez compte, on ne va pas vous... Parce que vous auriez quelqu'un peut-être. Et je venais de prendre la retraite à 78 ans. Oui, peut-être que le père Fouchou... oui, tout de suite, je vais lui demander. Voilà, et le lendemain, j'étais ici.
Alors, quelle est votre mission ici? Vous accueillez les pèlerins, les gens de passage, vous célébrez, vous accueillez les gens de la vallée aussi. Quelle est votre mission?
Oh là là, ma mission, vous rendez compte. D'abord, je suis à la retraite. On m'a demandé de rendre service. Je rends service. J'accueille les gens du mieux possible. Quelquefois, certains m'énervent. Par exemple, qui se mettent derrière le public, et derrière le pupitre, et qui se mettent à prêcher et à vociférer, à faire rire les touristes qui sont là. Bon. Ensuite, d'autres qui s'assiedent carrément sur l'autel et qui photographient les différents... les vitraux qui sont là, et en particulier celui qui est proche de l'hôtel, qui est très beau. Et voilà. Ensuite, j'accueille. Oui, je raconte rarement l'histoire. Les gens ne demandent pas. Quand j'arrive ici, vers 3h, 4h l'après-midi, ben, je trouve une ou deux personnes assises sur les bancs, avec le sac de montagne, le piolet à côté. Ben, ça fait réfléchir, ils ne demandent rien, hein. Ils ne demandent rien. Mais alors, quelques-uns comme vous, là, oui, curieux, puis qui pensent que la Vierge est apparue et que quels sont les miracles. Et alors, moi, je leur rappelle Lourdes. Hein, l'Évangile, Lourdes.
Tout à l'heure, vous parliez de l'esprit du lieu. Quel est pour vous l'esprit de ce lieu? Si vous pouviez le décrire en quelques mots.
Oui. Alors, les gens ici... L'esprit que l'on vient chercher, ben, d'abord c'est la mémoire. Hein. J'ai célébré la messe tous les jours depuis le mois, depuis le 20 avril jusqu'à maintenant, tous les jours à 18h et le dimanche à 11h. Les portes ouvertes, quel que soit le temps, personne dans la chapelle, mais j'ai vu du monde chaque fois, des personnes de la vallée qui venaient prier et qui sont décédés. Je ne m'y suis jamais ennuyé. Vous savez, il n'y avait personne, jamais ennuyé. Et ce que l'on va faire le mois d'octobre, là, le premier dimanche d'octobre, les gens me donnent les noms des personnes qui ont décédé dans la vallée. Ben, nous allons faire une célébration, une messe pour tous ces gens-là, et où chaque personne de la famille viendra présenter un peu son défunt. Et il y a déjà une bonne vingtaine de personnes qui sont mortes pendant le confinement, là, entre des familiers de Tarbes, de Lourdes, de... Voilà, alors j'accueille. Des fois je ne dis rien, des fois je gronde un peu, mais en général je suis heureux de voir que les gens viennent ici.
Comment ça vous grondez, vous
Mais oui, parce que certains exagèrent, quoi, il y a des gens... Et puis surtout actuellement, et des gens du pays, hein, ce ne sont pas les Anglais, les Allemands qui bousculent, non, surtout les gens du pays, c'est familier, ils viennent se détendre, ils arrivent dans la chapelle, et puis voilà, ils sont décontractés, quoi. Alors, je les remets un peu sur les rails.
Le 15 août, ici, comment ça se passe?
Le 15 août, c'est la messe de l'Assomption. Il y a du monde, et cette année, on va célébrer ici les guides de la vallée. Hein. C'est la fête des guides. Voilà, je me promenais à Chamonix les années 65 et 68. Je suis allé à Chamonix le 15 août, et c'était la fête des guides. Et à partir de 74-75, curé de Gavarnie, ben, je célébrais le 15 août à la Prade, devant le cirque, quoi. Mmh. Et de plus en plus de monde est venu. Et puis ça s'est répandu dans la vallée. Alors, c'est à Eas, c'est à Gavarnie, c'est à Barège, chaque année le 15 août.
Alors, on peut dire l'heure de la messe, ici, le 15 août?
Toujours 11h. Et il y a du monde en général. Parce que c'est la fête de l'Assomption, et puis parce que c'est la fête des guides, et lorsqu'on est à Eas, ben c'est à 1600 mètres d'altitude, on a toujours envie de monter davantage, spirituellement, comme matériellement, quoi, comme physiquement, pardon. Voilà.
Bien, merci beaucoup. Alors, on vous souhaite une belle saison, hein, comment on peut dire ça?
Oui. Je vous remercie. Elle se fait quand il y a du monde, quand il y a moins de monde, et puis elle se fait en tout temps parce que le pays est très beau, quoi. Accueillant au possible.
Merci beaucoup. Nous quittons ainsi le Père Fouchou et le sanctuaire Notre-Dame des Asses. Merci d'avoir suivi ce reportage que vous pouvez réécouter en podcast sur le site de Radio Présence et sur le site du diocèse de Tarbes-Lourdes, catholique65.fr.